Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce matin est Alexis Bouchard, secrétaire national des Jeunes Socialistes. Il est notre dernier invité politique de la semaine avec, j'allais dire, une mission particulière puisqu'on ferme, on clôt cette campagne électorale des élections européennes puisque le scrutin aura lieu ce dimanche, 9 juin. On va faire une forme de bilan un petit peu de cette campagne avec vous, Alexis Bouchard. Campagne pour le Parti Socialiste et Place Publique avec la liste de Raphaël Glucksmann. Mais avant tout, je voulais vous entendre un petit peu sur l'actualité toute récente, puisque hier soir, le président de la République s'exprimait à la télévision sur les JT, dans les JT de France 2 et de TF1, avec des annonces. Alors déjà, est-ce que vous avez eu le temps, malgré la campagne qui vous mobilise?
J'ai préparé ma matinale un petit peu. Donc voilà. Je me suis effectivement... vu effectivement les 45 minutes d'interview d'Emmanuel Macron.
Alors, sur ces 45 minutes, il y a eu des annonces. Il y a eu cette annonce d'ailleurs qui fait couler beaucoup d'encre et qui fait beaucoup parler les éditorialistes et experts ce matin de l'envoi de Mirage, d'avions Mirage, des Mirage 2000 pour l'Ukraine, à la demande de l'Ukraine, express de l'Ukraine qui a besoin de ces avions pour se défendre contre la Russie. Est-ce que c'est une bonne idée? Où est-ce qu'on met un cran de plus dans l'escalade?
Alors déjà, bonjour à tous et merci pour votre invitation. Alors effectivement, bien avant en fait l'interview d'Emmanuel Macron d'hier soir, en fait ses conseillers en communication à l'Élysée avaient annoncé déjà la couleur, de dire qu'effectivement, à 3 jours de scrutin des européennes, que le président allait évoquer la situation internationale et parler du scrutin de dimanche. C'est un petit peu prématuré, si vous me permettez cette petite incise en termes de temporalité, puisqu'effectivement ça pose la question de la sincérité du scrutin. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste et notre candidat tête de liste Raphaël Glucksmann avait saisi l'ARCOM d'ailleurs, qui maintenant a finalement décidé de décompter le temps de parole du président de la République au nom de son parti, de la majorité présidentielle et de la liste représentée par Valérie Ayer au scrutin européen de dimanche. Effectivement, les annonces d'hier soir, donc je les ai écoutées finalement, mais l'annonce était faite bien avant, cette interview d'hier soir. Et en fait, sur les 45 minutes de discours et d'interview, on n'apprend pas grand-chose. C'est beaucoup de blabla, en fait, pour appeler à mobiliser et surtout faire en sorte d'appeler plus ou moins directement, d'appeler à voter pour la liste de la majorité présidentielle. Donc, encore une fois, c'est monopoliser tous les JT, toutes les radios, tout ce qui peut exister dans les médias pour avoir l'attention sur soi. C'est quand même symptomatique d'une campagne qui ne décolle pas, d'une majorité présidentielle qui peine à enrayer la montée du Rassemblement National et de l'extrême droite, à la fois sur les thèmes, dans le débat public, mais aussi dans les sondages et en termes de dynamique de campagne. Et sur les annonces qui ont été faites, moi, je me réjouis effectivement que on accélère enfin l'aide à la résistance ukrainienne. Pour autant, nous, on a des propositions et des mesures assez directes et qui touchent au portefeuille directement de Vladimir Poutine pour accélérer et aller vers la victoire de l'Ukraine, parce que on nous parle beaucoup de paix et d'une solution comme quoi Vladimir Poutine serait prêt à baisser les armes maintenant qu'il a réussi à avancer et à avoir entre guillemets ce qu'il voulait. La capitulation de l'Ukraine, en fait, c'est pas la victoire, c'est pas la paix, c'est une manière de dire, de repousser le problème plus loin, de dire qu'est-ce que Vladimir Poutine sera capable de faire dans les années, dans les mois, dans les décennies à venir. C'est évidemment mettre en danger tout le continent européen, et on est évidemment touché ici, nous, chez nous, partout, quand on voit toutes les ingérences qu'il peut y avoir sur des hôpitaux qui sont attaqués, les cyberattaques, on en parle assez souvent, mais il faut accélérer effectivement ces livraison d'armes, c'est ce que nous proposons avec Raphaël Glucksmann pour l'Ukraine et soutenir la résistance ukrainienne. Et c'est surtout une mesure phare quand même qui devrait être mise sur la table et qui n'a toujours pas été faite par Emmanuel Macron. Il y a urgence à reprendre les avoirs russes qui ont été gelés ces dernières années pour financer la livraison des armes à l'Ukraine. On doit pouvoir aussi autoriser, et ça a été fait récemment et on s'en réjouit, que les armes ukrainiennes, les armes livrées à l'Ukraine puissent enfin cibler des bases militaires russe, un moyen effectivement d'être beaucoup plus dissuasif et pouvoir aussi faire potentiellement reculer les troupes de Vladimir Poutine qui progressent. Mais en tout cas, c'est encore des propositions, presque annoncé à l'avance, voilà, qui arrive un peu à la hâte, à 3 jours du scrutin, ce qui pose évidemment la sincérité du vote de dimanche, mais c'est surtout, encore une fois, des mesures qui ne vont pas assez loin, qui ne touchent pas directement au porte-monnaie de Poutine. Voilà, il faut toucher là où ça fait mal, et c'est effectivement une urgence, une priorité absolue pour la victoire de l'Ukraine et la paix partout dans le continent européen demain.
Alors ces annonces, en tout cas cette annonce, résonne fortement avec les commémorations du 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Il y avait également des cérémonies hier, il y en a encore aujourd'hui à Bayeux en particulier. On a l'impression d'une, j'allais dire presque, permettez-moi le terme, il va peut-être être un peu décalé ou déplacé, mais d'une forme de scénographie de la guerre, avec une situation qui serait aujourd'hui un peu semblable, et pourtant les historiens disent que non, à celle d'il y a 80 ans. Est-ce qu'on est sur la même pente fatale, si vous me permettez ?
Moi, je trouve que c'est important de commémorer, de faire perdurer le travail de mémoire, d'autant plus quand on a tendance à beaucoup oublier, quand le débat politique, le débat public est toujours effréné, est toujours plus violenté, brutalisé, voilà, depuis ces dernières années. C'est important, voilà, d'apaiser les choses, de se rappeler surtout que la liberté n'est pas acquise et que on doit beaucoup à ceux qui ont combattu pour notre liberté dans notre pays, que ce soit les États-Unis, les Canadiens, les Britanniques et j'en passe. Moi, je suis à titre personnel citoyen de la paix, je suis porte-drapeau dans ma petite commune rurale à Saint-Uniac, près de Rennes, depuis maintenant près de 10 ans. Alors même si je suis très jeune, en fait, je me suis engagé très jeune au sein des anciens combattants de ma commune, et je trouve ça très important qu'on perdure ça, qu'on aide nos anciens, et surtout que quelque part, en participant simplement à 2 cérémonies par an, ça dure pas très longtemps, remercier modestement en fait ceux qui ont combattu pour notre liberté. Donc moi je trouve que c'était normal, entre guillemets, à l'occasion du 80e anniversaire, de fêter ça, aussi de se rappeler que la résistance aussi n'y est pas pour rien dans notre liberté actuelle et dans le fait que nous vivons bien aujourd'hui en paix, à l'heure où effectivement, dernièrement en Bretagne, on voit des monuments de la résistance qui se font attaquer, on voit la recrudescence des actes antisémites qui sont les conséquences les plus néfastes, les plus horribles que le nazisme a connues et que la Seconde Guerre mondiale a connues, ce que nous avons combattu, ce que les résistants ont combattu et ce que les vétérans, nos soldats ont combattu. C'est important de se rappeler de tout cela pour faire perdurer la mémoire, évidemment, remercier ceux qui ont combattu, mais surtout ne pas retomber dans nos travers à l'heure où l'extrême droite monte partout en Europe, à l'heure où les populistes montent partout en Europe et même à travers le monde. C'est important de se rappeler l'histoire pour ne pas retomber dans nos travers, puisque les générations qui nous ont précédés en ont souffert, en sont mortes. Voilà, il y a eu des génocides. C'est des mots à ne pas prendre à la légère. Voilà, on a souvent tendance à oublier l'histoire, et faire perdurer cette mémoire, c'est aussi se rappeler l'histoire.
Alors, ce que je voulais dire, c'est en fait, est-ce qu'il y a une forme de répétition de l'histoire ?
Effectivement. Pas tant dans la cérémonie actuellement, mais effectivement, quand on voit la montée des populismes, je vous le disais, alors je ne sais pas si ça répond véritablement à votre question, mais en tout cas, je ne veux pas dire que l'histoire se répète, mais il y a forcé de constater qu'il y a de fortes similitudes avant d'accéder au pouvoir. En Allemagne, Adolf Hitler est arrivé par les urnes à gagner les élections législatives. C'est une manière douce, via la dédiabolisation des partis d'extrême droite et des partis populistes, de se dire que c'est des partis normaux, alors que ce n'est pas du tout le cas. Pour prendre l'exemple français, le Rassemblement National a été fondé par des SS. Jean-Marie Le Pen est toujours un antisémite et un raciste, que l'on connaît, qui a pu proposer et faire des détails sur ce qui n'est pas en fait dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et plus largement dans l'histoire de France, à occulter des passages sensibles et surtout des moments très importants. On sait que Jordan Bardella actuellement considère Jean-Marie Le Pen comme une figure, j'allais dire presque paternelle, mais en tout cas une figure d'exemple. On l'a vu au travers forcément des derniers documentaires et des enquêtes, parce que effectivement il s'en cache. Il y a une stratégie de dédiabolisation, comme je vous le disais, pour paraître normal et accéder plus facilement au pouvoir. Pour autant, on sait très bien que dans la réalité, en coulisses, il y a toujours un même attachement à ces figures que sont Jean-Marie Le Pen et bien d'autres, en fait, dans les fondateurs du Rassemblement National. Mais voilà, on sent bien que partout en Europe et dans le monde, les populistes progressent. Ils avancent doucement mais sûrement. Ils commencent à gagner des élections. Ils sont partout dans les sondages. Ils sont plébiscités. Ils sont même applaudi de plus en plus, alors qu'il y a encore quelques années, on manifestait contre l'extrême droite. Eh bien, c'est là le danger, parce qu'une fois arrivés au pouvoir, et plus ils seront puissants, notamment en Europe et c'est pour ça que les élections de dimanche prochain, elles sont historiques. C'est parce qu'il y a une majorité potentiellement allant des libéraux jusqu'à l'extrême droite qui peut demain diriger et en tout cas représenter, enfin faire une coalition pour avoir une majorité au Parlement européen. C'est là le vrai danger pour faire reculer les droits des travailleurs, des personnes minorisées et plus largement de tous les Européens.
Alors on les voit justement ces populistes ou ces populismes qui montent, les Pays-Bas ont voté déjà pour les élections européennes avec un petit peu d'avance sur nous autres ici en France, avec les premiers résultats qui laissent apparaître d'ailleurs un coude à coude, en tout cas des résultats très serrés entre les formations, on pourrait qualifier d'extrême droite là-bas, oui, et la coalition socialiste et écologiste. Voilà. Et ici en France, on a le dernier sondage en date qui donne 33% à Jordan Bardella. J'imagine que c'est quelque chose qui vous inquiète pour dimanche.
Évidemment, mais le sursaut que l'on a vu hier soir, effectivement, aux Pays-Bas, il n'est pas anecdotique, il veut dire bien des choses. Les Pays-Bas ont voté avant même le 6 juin, ils ont voté aux élections législatives il y a de cela quelques mois. Effectivement, l'extrême droite est arrivée en tête. Donc on donnait dans les sondages pour les élections européennes aux Pays-Bas l'extrême droite en tête. Effectivement, vous avez raison de le dire, ça se joue au coude à coude. Mais malgré tout, la coalition social-démocrate, socialiste et écologiste est arrivée en tête à un siège près hier soir aux Pays-Bas. Et ce n'est pas rien. On a dit depuis des mois partout en Europe que voilà, l'extrême droite allait monter, ce que je ne minimise pas évidemment, mais ils sont peut-être effectivement surévalués, et la victoire des socialistes aux Pays-Bas hier soir en dit long. En dit long parce qu'on peut se dire que partout en Europe, les progressistes, les démocrates, les humanistes vont peut-être se mobiliser dans les urnes, et c'est ce que nous portons dans notre campagne ici en France avec Raphaël Glucksmann depuis le début de notre campagne, c'est-à-dire une campagne enthousiaste où on parle du sujet de l'élection, l'élection européenne, là où d'autres, notamment le Rassemblement National et l'extrême droite, fantasment sur des idées préconçues ou préfèrent passer leur temps à commenter soit notre campagne ou celle de la majorité présidentielle. Bref, c'est là un vent d'espoir qui peut arriver en Europe si effectivement tous les démocrates, tous les progressistes, voilà, tous les gens qui ont une sensibilité, qui sont attachés à l'idéal européen, se mobilisent en votant pour les sociaux-démocrates, on a moyen aujourd'hui d'enrayer la montée de l'extrême droite. Et on voit bien, du coup, à travers l'exemple néerlandais, que finalement, le meilleur barrage à l'extrême droite, ça reste la gauche. Et donc, aujourd'hui, demain, le 9 juin, au Parlement européen, on a la possibilité de faire basculer l'Europe à gauche. Et c'est le meilleur antidote à l'extrême droite et à la montée des populismes. Et donc, il faut se mobiliser demain, le 9 juin.
Alors, avec le rejet de la politique d'Emmanuel Macron, parfois même de la personne d'Emmanuel Macron, une forme aussi de défiance vis-à-vis de l'Europe et une forme de désespoir, il faut bien le dire. On voit aujourd'hui les Français qui peinent. Hein, on en a parlé souvent ici, avec ce pouvoir d'achat qui reste difficile, en tout cas pour les Français, de pouvoir payer l'électricité, là aussi des difficultés pour se loger, parfois pour changer la voiture. Voilà, il y a tout ça qui pèse aussi. Est-ce que finalement, ici en France, cette élection, je l'ai dit souvent au micro, c'est une forme primaire de l'élection présidentielle, ou en tout cas un rejet d'Emmanuel Macron et de sa politique?
En tout cas, un rejet de, si je peux me permettre cette incise encore une fois, un rejet effectivement de la politique d'Emmanuel Macron et de l'Union européenne. Évidemment, on le voit à travers tous les instituts de sondage et globalement, nous, sur le terrain, quand on va à la rencontre des Françaises et des Français, il y a un dégoût, quelque part, de ces gens qui ne considèrent plus rien. Et en l'occurrence, si l'Europe est si décriée aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'elle est dirigée depuis plus de 30 ans par la droite et les libéraux dont font partie Emmanuel Macron. Elle est perçue à juste titre comme ultralibérale, comme technocratique et un peu loin des préoccupations des gens, mais c'est parce qu'elle est effectivement dirigée par la droite depuis 30 ans. Et nous, ce que l'on veut, c'est effectivement rétablir l'Europe sociale. Je vous le disais, il y a un enjeu à ce que l'Europe bascule à gauche. Le groupe des sociodémocrates, voilà, est le deuxième groupe le plus important au Parlement européen. Il est en passe à quelques sièges près, si on se mobilise à l'échelle européenne, d'être premier demain et d'avoir enfin l'Europe sociale que l'on attend depuis bien longtemps, l'Europe de Badinter, l'Europe de Delors, de toutes ces figures qui ont fait de l'idéal européen un idéal qui puisse permettre à toutes et à tous de vivre dignement, cette Europe des solidarités finalement. Et il y a un double enjeu, effectivement, je vous le disais, sur l'Union européenne à l'échelle européenne pour faire basculer l'Europe à gauche, mais surtout effectivement en France, puisque les déçus du macronisme et qui voient en l'extrême droite potentiellement la seule alternative malheureuse pour voter effectivement et exprimer en tout cas son dégoût et sa sanction d'Emmanuel Macron, et on leur dit effectivement il y a un autre passage, il y a une autre alternative, et cette alternative c'est le bulletin Raphaël Glucksmann, puisque dans les sondages il y a toujours effectivement des pincettes à prendre et nous sommes très prudents là-dessus. Nous sommes tout de même à un point de sondage de la liste de la majorité présidentielle, nous sommes à 14% ce soir à la veille, du scrutin européen. On est en fait, avec la marge d'erreur, on est en passe de passer devant les macronistes dimanche. Et la grosse surprise de ces élections, c'est potentiellement, nous, le retour de la gauche socialiste et globalement, de notre projet. Raphaël Glucksmann, avec notre tête de liste, c'est vraiment l'arme qui pourra servir aux citoyens qui veulent sanctionner Emmanuel Macron. Effectivement, si vous ne comptez, parce que si vous n'oubliez pas comme nous, excusez-moi, j'en permets mes mots, la retraite à 64 ans, la loi immigration, toute la casse sociale qui existe et qui précarise les Françaises et les Français depuis maintenant des années, depuis presque 2017, si on peut le dire ainsi, et que vous ne souhaitez pas voter pour l'extrême droite et son projet nauséabond et son absentéisme béat depuis maintenant 10 ans au Parlement européen, eh bien vous avez pour vous et à votre disposition une arme. Cette arme, c'est le bulletin Réveiller l'Europe de Raphaël Glucksmann et du Parti Socialiste le 9 juin, et c'est important de se mobiliser. Voilà, il y a des enjeux au niveau de la France, au niveau de l'Europe, mais en France, c'est ça, c'est casser ce duel mortifère entre la droite et l'extrême droite et proposer cette alternative heureuse qui changera enfin la vie des gens.
Alors, on entend beaucoup de Français qui s'interrogent justement pour voter pour les sociaux-démocrates, c'est le terme générique souvent employé, en réponse peut-être à une extrême gauche plus véhémente, plus bruyante. Est-ce que c'est dommage finalement qu'il y ait eu cette scission au sein de la NUPES et que LFI ait fait son chemin seul, qu'il n'y ait pas eu une gauche unie?
On est beaucoup accusé d'avoir scindé la NUPES d'avoir quitté la NUPES en premier. Moi, je voudrais rajouter de la pondération à ce débat parce que, ça s'envenime beaucoup, je trouve, notamment sur Twitter et dans les milieux militants.
On voit des mots très durs sur les réseaux.
On voit des mots très durs et, en l'occurrence, notre campagne et Raphaël Glucksmann subissent des attaques abominables basées sur de fausses informations, des fake news, des exagérations, des surinterprétations depuis des mois, depuis le début de cette campagne. C'est franchement néfaste et assez peu admissible dans une campagne démocratique sereine quand on peut parler des idées et on peut parler des sujets de fond. Nous, c'est ce que nous appelons à faire et c'est ce que nous faisons depuis le début, je vous le disais. On est les seuls aujourd'hui dans le paysage politique à parler du sujet de l'élection, l'Europe, et les autres préfèrent passer du temps effectivement à commenter ce que nous faisons et propager des fausses informations pour faire croire des positions pour prêter des positions à Raphaël Glucksmann qu'il n'a pas, ou même au Parti Socialiste en général, et c'est franchement très néfaste. Effectivement, sur la gauche, si on peut rappeler un peu les choses, mettre les points sur les i et surtout préciser la temporalité des choses, on n'a pas été les premiers à quitter la NUPES. Au début, nous, on a acté effectivement que les écologistes et les communistes voulaient aller seuls à ce scrutin européen, ce que nous avons respecté, puisque c'est un scrutin à la proportionnelle. Maintenant, les électeurs de gauche peuvent faire leur choix en âme et conscience et peuvent exprimer effectivement peut-être quelle sensibilité les concerne ou s'approprie le mieux. C'est une manière aussi de, je veux pas dire rebattre les cartes, mais permettre à l'électorat de gauche de dire quelle est sa ligne sur les questions européennes et internationales. Et donc on verra bien le soir du 9 juin ce qu'il en est aujourd'hui dans la recomposition de la gauche demain. Et je veux dire par là, parce que ceux qui nous attaquent encore une fois sur beaucoup d'a priori et de surinterprétations vont nous dire dimanche soir que l'Union, enfin a priori puisque nous sommes les premiers dans les sondages, a priori nous serions premiers à gauche. Encore une fois, je prends des pincettes, mais j'appelle évidemment le maximum d'électeurs à se mobiliser pour toutes les listes de gauche par ailleurs. Ces gens-là vont nous dire que on ne pourra pas faire l'union de la gauche derrière le Parti Socialiste, que ce n'est pas possible de faire ainsi, alors qu'en réalité, en fait, les électeurs auront tranché. Et donc, à un moment donné, il faut respecter la démocratie, il faut respecter ce que l'électorat de gauche aujourd'hui nous dit. L'électorat de gauche est orphelin, il n'est propriétaire de personne, d'aucun parti à gauche, et on le voit bien au gré des élections. Ce n'est jamais la France Insoumise, le Parti Socialiste, les écologistes ou les communistes qui agglomèrent l'ensemble de l'électorat de gauche à chaque élection et successivement au gré des scrutins. L'électorat de gauche vote souvent pour, entre guillemets, faire un vote efficace, le vote utile pour contrer l'extrême droite. Il s'avère que pour les élections européennes, c'est le vote socialiste, qu'aux élections présidentielles, c'était effectivement le vote Mélenchon, qu'aux dernières municipales, c'était peut-être voilà, les écologistes avec les socialistes. Bref, personne n'est propriétaire des voix.
Il y a des nuances, finalement.
Il y a des nuances.
Il y a des courants, les fameux
Elles
courants.
Elles permettent de s'exprimer. Mais je trouve scandaleux l'hypocrisie qu'il y a à nous attaquer sur de fausses informations pour gratter des voix à l'heure où l'extrême droite grimpe et aussi avec les 40% dans les sondages. C'est franchement très grave et ça nous permet de douter franchement de la sincérité de leur engagement et de leur combat antifasciste. Ils ont beau faire des discours sur l'antifascisme et j'en passe, mais à un moment donné, quand on passe plus de temps à taper sur Glucksmann que sur Bardella, il faut franchement se poser des questions. Je veux dire, il y a eu nombre de décomptes qui ont été faits sur notamment le nombre de tweets d'un certain nombre de députés insoumis qui ont été faits à la fois sur le Rassemblement National et à la fois sur Raphaël Glucksmann, et les chiffres sont franchement, font franchement froid dans le dos, il faut le dire, puisque pour un certain nombre d'entre eux, on voit ces derniers mois peut-être, allez, 3 tweets contre le Rassemblement National et l'extrême droite pour 46 tweets contre la liste de Raphaël Glucksmann et du Parti Socialiste. On se demande où est leur boussole. Et donc demain, parce qu'en plus, je veux dire, en parlant d'exagération, quand on regarde les programmes, ils ont beau faire des discours voilà, sur la gauche du rupture, etc., que nous, on serait la gauche molle avec le retour des éléphants de François Hollande et j'en passe, il n'en est rien quand on regarde le fond. Et si on avait enfin un débat apaisé sur le fond des programmes, on se rendrait compte qu'effectivement, 80 à 90% de nos propositions, ce sont les mêmes. Et c'est terrible à dire, mais on aurait été beaucoup plus fort à taper ensemble, comme ils le font en Espagne, la gauche espagnole, taper ensemble la droite et l'extrême droite. Et donc, pour tout cela, voilà, c'est franchement, je suis très en colère, honnêtement, parce que cette campagne a été vraiment catastrophique. On aurait pu parler des sujets de fond, des sujets importants. Aujourd'hui, voilà, il y a la guerre dans le continent, on en a parlé, il y a la guerre au Proche-Orient, il y a les gens qui crèvent la dalle et qui peinent à boucler leur fin de mois. On pourrait parler augmentation des salaires, mais on préfère parler de Glucksmann. On préfère parler des socialistes qui sont en train de monter les sondages. En fait, voir le Parti Socialiste potentiellement casser la baraque dimanche soir, si je peux me permettre. Et ce que je l'espère, comme tous les partis de gauche, ça devrait quand même nous pousser à avoir voilà, de l'espoir et potentiellement déjà à préparer 2027, l'après. Parce que nous, dès le 9 juin au soir, on va appeler à l'union de la gauche. Et ceux qui ne suivront pas, on ne dit pas de faire l'union derrière nous, mais en tout cas de se réunir autour de la table et enfin parler de façon apaisé, encore une fois, on a des propositions similaires, des mesures similaires, eh bien, ce sera le meilleur moyen de contrer l'extrême droite. Ceux qui s'y refuseront seront les marchepieds, les idiots utiles de l'extrême droite et de la Macronie, qui n'attendent que ça. On le voit dans les débats, Bardella a toujours un sourire en coin, comme Manon Aubry, Marie Toussaint ou Raphaël Glucksmann se tapent dessus.
Alors, coup de colère, hein, on l'a entendu ce matin de votre part, Alexis Bouchard. Je voulais vous entendre aussi, alors on revient, pardonnez-moi, à un débat un peu franco-français.
Bien sûr.
Mais il y aura l'après 9 juin, évidemment. Et on a vu Jordan Bardella s'exprimer dans les médias, sur ses réseaux, en demandant que au lendemain du 9 juin, Emmanuel Macron prenne ses responsabilités et procède à la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors, il y a peu de chances, a priori, que ça se passe comme ça, mais je vais peut-être un peu pousser le bouchon un peu loin, mais est-ce que c'est une bonne idée justement la dissolution de l'Assemblée nationale ou est-ce que c'est finalement s'approprier une élection qui est finalement une élection européenne et pas une élection nationale ?
Bah oui, quelque part il y a de ça, c'est surtout en fait le moyen pour Bardella de faire parler de lui et de surinterpréter, d'exagérer et de faire perdurer ce fameux duel, je disais, entre la droite et l'extrême droite. Parce que Bardella a tapé sur Macron et Macron a tapé sur Bardella, c'est le meilleur moyen pour les deux de les faire monter et d'occulter quelque part toutes les autres listes, tous les autres projets alternatifs pour l'Union européenne, en faire un débat national alors que les enjeux effectivement sont européens, c'est peut-être quelque chose presque de dramatique, puisque effectivement à surinterpréter le duel entre l'extrême droite et la droite en France, c'est oublier, occulter en fait les enjeux européens, puisque je vous disais, en l'occurrence le groupe social-démocrate et le groupe socialiste sont deuxièmes au Parlement européen, le premier c'est la droite conservatrice représentée par les Républicains en France. En fait, le duel entre la droite et l'extrême droite, il est presque anecdotique en France, si ce n'est effectivement peut-être rebattre les cartes pour l'après-européenne, et en fait c'est ce à quoi jouent Jordan Bardella et Emmanuel Macron par prise de parole interposée, disons, en appelant effectivement Marine Le Pen, j'entendais il n'y a pas longtemps, appeler à débattre avec Emmanuel Macron. Enfin bref, c'est tous ces petits jeux, en fait, on le dit mais sans le faire, c'est permettre d'occulter effectivement toutes les autres listes, tous les autres projets alternatifs, c'est faire en sorte d'installer le duel entre le Rassemblement National et Renaissance comme indéfectible. Et en fait, ce que a montré cette campagne, c'est que notre dynamique, à nous, celle de Raphaël Glucksmann et des socialistes, a montré que en fait, les gens, les électeurs et tous ceux qui s'y intéressent en ont un peu marre de ce duel et de ce jeu en fait, qui est plus que dangereux pour notre démocratie, parce qu'on ne joue pas avec la démocratie, on ne joue pas avec l'extrême droite. Ce sont effectivement des moments sérieux. En fait, il y a des gens qui souffrent, tout simplement. Et donc, quand on veut s'émanciper de cela, de ce duel, à la fois sur des enjeux évidemment franco-français, vous le disiez, mais aussi européens, eh bien il y a cette alternative, celle des socialistes, des sociodémocrates et de Raphaël Glucksmann. C'est là, encore une fois, la meilleure arme, c'est notre bulletin à déposer et à se mobiliser dimanche le 9 juin. Et effectivement, bah, on voit bien que dans la dynamique de campagne que nous avons depuis maintenant plusieurs mois, le nombre de gens qui nous soutiennent et nous encouragent sur les gares, devant les usines, sur les marchés, et le nombre de jeunes, de gens tout simplement, mais même de tous les âges qui nous rejoignent en réunion publique, en meeting, c'est franchement impressionnant. On se dit que la dynamique, voilà, elle n'est pas que dans les sondages, évidemment, qu'il y a une envie de gauche dans ce pays, une envie de gauche dans ce continent, et surtout une envie d'en finir avec ceux qui se jouent de nous, se jouent des gens qui souffrent, des travailleurs, des plus précaires, des jeunes, des retraités, à savoir l'extrême droite et le camp d'Emmanuel Macron. Et donc, le 9 juin, il faut se mobiliser.
Alors justement, la mobilisation, on a l'impression souvent que les élections européennes, enfin c'est pas seulement l'impression, c'est vérifié, ne mobilisent pas toujours, pas beaucoup. Alors ici, les Bretons, on est un peu plus, bon élève. Oui. Les Bretons sont plutôt pro-européens, en tout cas plus proches de l'idée européenne, avec néanmoins une forme de défiance, je le disais en commençant, qui amène les gens à se détourner des urnes, les jeunes générations à avoir du mal à comprendre les enjeux et à venir là aussi voter. Néanmoins, on a un petit frémissement, on a vu que les 48,5% sont dépassés pour les intentions de vote, on a démarré à 46% quand même pour ces 2 petits pourcents et demi, c'est pas grand chose, mais voilà, on a senti un petit frémissement. Est-ce que là, il faut encore répéter aujourd'hui, puisque le juge de paix, c'est l'abstention, que c'est important, cette élection européenne?
C'est évidemment important, et je pense que les gens se rendent compte que c'est de plus en plus important. Effectivement, vous avez raison de le rappeler, le taux de participation à cette élection dimanche a l'air, en tout cas, d'augmenter, mais en tout cas reste toujours assez faible, en fait, dans la réalité, mais il arrive quand même à égaliser, entre guillemets, le taux de participation des dernières élections législatives, ce qui n'est pas rien, en tout cas, dans ce que, en tout cas, les gens peuvent considérer, voilà, que l'Union européenne, en tout cas, les enjeux européens les concernent aussi, et c'est ce que nous disons aussi dans cette campagne, et je pense notamment aux jeunes, qui sont vraiment la tranche d'âge qui se mobilise peut-être le moins. Moi, j'appelle tous les jeunes, effectivement, à se mobiliser. Il y a bien des enjeux européens qui pourront permettre demain de changer concrètement la vie des jeunes, quand on voit aussi aujourd'hui que plus d'un jeune sur deux ne mange pas à sa faim, que pour trouver des logements, c'est galère, qu'on est obligé de travailler à côté de ses études, voilà, c'est franchement des choses abominables. Et bien, avec le bulletin Raphaël Glucksmann et Réveiller l'Europe dimanche, vous avez la possibilité de voter pour une allocation d'autonomie pour les jeunes de 1100 euros, voilà, pour toutes et tous, de faire un Erasmus élargi partout dans le continent européen pour permettre à non seulement les étudiants, mais aussi aux chômeurs et aux travailleurs de pouvoir voyager partout en Europe. C'est faire le pass éco-train pour permettre de voyager, faire véritablement l'Europe du train pour permettre effectivement de découvrir le continent européen. C'est aussi se préoccuper de la santé mentale avec un grand service public pour la santé mentale des jeunes. Bref, tout plein de sujets qui peuvent aussi mobiliser et nous permettre demain de changer concrètement la vie des gens. Et donc, j'en appelle évidemment à toutes et tous se mobiliser dimanche 9 juin pour Raphaël Glucksmann et enfin réveiller l'Europe.
Et ce sera le mot de la fin, car voilà, le temps imparti était écoulé, comme l'on dit. Alexis Bouchard, secrétaire national des Jeunes Socialistes, était notre invité politique ce matin pour cette fin de campagne des européennes. Et on continuera à parler de politique et même d'Europe, bien au-delà de ces élections sur l'antenne de Bretagne 5. Merci infiniment d'avoir été avec nous en direct ce matin. Belle journée.
Merci, bonne journée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.